Dernier moment de cette série de la Compagnie des auteurs consacrée à Oscar Wilde. Un moment de retour au texte et même de commentaire de texte avec l'angliciste Pascal Acquien. Juste après ce dernier clin d'œil à Un mari idéal.
Je ne crois pas que j'aime vraiment cette fleur, Phipps. Elle me vieillit un peu. On dirait presque que je suis dans la force de l'âge, n'est-ce pas, Phipps ? Je ne remarque aucun changement dans l'apparence de votre seigneurie.
Aucun, Phipps ?
Aucun, monseigneur. Je n'en suis pas tout à fait sûr. À l'avenir, Phipps, trouvez-moi une fleur plus frivole pour le jeudi soir.
Bonjour Pascal Acquien.
Bonjour.
Alors porterez-vous une fleur frivole tout à l'heure, puisque nous sommes jeudi et que vous présentez votre MOOC à l'université de la Sorbonne. Vous avez une espèce de fleur un peu frivole quand même dans votre poche.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une pochette mauve et c'est une couleur que Wilde aimait beaucoup. Et il a fait beaucoup de commentaires sur le mauve, hein, et qui est une couleur qui pouvait de temps en temps susciter même une certaine ironie, hein, puisqu'il dit qu'il ne faut pas faire confiance à une femme qui porte du mauve. Hein.
Mais un homme, on peut, évidemment.
Un homme, on peut, donc c'est pour ça que j'en porte, donc vous pouvez me faire confiance.
Donc les auditeurs qui veulent venir vérifier la couleur de votre pochette ce soir à la Sorbonne, c'est à 19h30, il faut rentrer au 17 rue de la Sorbonne,
oui.
C'est dans l'amphi Richelieu.
C'est dans l'amphi Richelieu, en effet.
Et il faut réserver d'abord.
Il faut réserver d'abord.
Sur paris-sorbonne.fr/MOOC. Alors, ce MOOC, qui est le premier MOOC en langue française sur Oscar Wilde, vous pouvez nous dire peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Je rappelle qu'un MOOC, c'est un cours en ligne à destination de qui, justement ?
Alors, c'est en effet un cours en ligne qui, cependant, n'est pas du tout un cours filmé dans un amphithéâtre. Donc, ce n'est pas un professeur derrière un bureau qui est filmé de manière, un peu sinistre.
Hein. Ça ne ressemble pas à des journaux. En pour,
ça ne ressemble pas aux journaux
télévisés
de la Pologne dans les années 70. Donc, c'est quand même un peu plus vivant que ça. Et c'est très scénarisé, en fait. Donc, les lieux de tournage sont très divers. Hein. Donc, il peut y avoir la Sorbonne, mais il peut y avoir des salons, il peut y avoir des jardins. Il y a, bien sûr, le cimetière du Père-Lachaise. Toutes sortes d'endroits, et c'est fait donc, enfin le tournage se fait avec une équipe de professionnels du tournage. Alors qu'est-ce que ce MOOC ? Eh bien c'est une présentation le MOOC est intitulé d'ailleurs Oscar Wilde, écrivain et penseur du langage. Donc c'est un MOOC qui couvre la plus grande partie de l'œuvre de Wilde. Il est évident que c'est pas possible de tout traiter, mais enfin quand même pas mal de choses sont abordées. Il s'agit de, alors je m'adresse à un public très varié, enfin un petit peu comme le public de Tintin, de 7 à 77 ans. Donc on n'a pas besoin d'avoir une formation
universitaire. Vous pensez qu'à 7 ans on comprend bien Oscar Wilde ?
Oui, je pense qu'on le comprend peut-être mieux, même que oui, parce
oui,
qu'on est
oublié,
parce qu'on est sensible à son imaginaire, je pense. Hein, l'imaginaire de ses contes, l'imaginaire et puis ses jeux avec les mots. Les enfants adorent jouer avec les mots, donc je pense qu'ils pourraient être sensibles à certaines choses, peut-être pas tout, mais quand même pas mal de choses. Donc un public très varié, pas nécessairement donc d'universitaires, ni de gens qui auront une formation particulière pour cela, puisqu'il s'agit d'ouvrir, bien sûr, l'œuvre de Wilde à qui veut. Donc le MOOC se fait en français, en effet, et je peux vous en dire un mot si vous voulez.
Oui, rapidement, voilà, avant de passer à la lecture des textes.
Bon, tout simplement parce que Wilde d'abord jouit d'une très très grande popularité dans ce pays, parce qu'il parlait parfaitement le français, parce qu'il a vécu, il a passé de très très nombreux moments à Paris, il a connu énormément d'écrivains français, enfin il était très très proche de beaucoup de gens, il a quand même fréquenté les Mardi de Mallarmé, il a connu Verlaine, il a connu André Gide, il a connu beaucoup de gens. Et puis, il a passé les dernières années de sa vie à Paris, où il est mort, comme on sait, au cimetière du Père-Lachaise. Et enfin, il a écrit Salomé en français. Donc, c'est un peu un écrivain français. D'ailleurs, il rêvait de voir Salomé donner sur la scène du théâtre français, ce qui ne s'est pas fait. Mais il avait, en quelque sorte, le désir de devenir un écrivain français. Il disait en plus que le français, avec le grec ancien, était les plus belles langues qui soient.
Alors parmi les extraits que vous avez sélectionnés, Pascal Acquien, il n'y a pas Salomé, mais en revanche il y a, pour commencer, l'incipit du fameux roman, et unique d'ailleurs, Le portrait de Dorian Gray. On vous écoute.
Juste un mot de présentation très rapide de ce texte. Il s'agit, comme vous venez de le dire, de l'incipit, et il s'agit de la description d'un atelier. Donc l'atelier qui est évoqué au début est un atelier de peintre, l'atelier dans lequel se trouve le fameux portrait. La riche senteur des roses emplissait l'atelier, et lorsque la brise d'été agitait les arbres du jardin, les lourds effluves du lilas, ou la fragrance plus subtile de l'épine rose, pénétraient par la porte ouverte. Depuis le coin du divan recouvert d'un tissu au motif persan, sur lequel il était étendu, fumant, comme à son habitude, cigarette sur cigarette, Lord Henry Wotton apercevait tout juste l'éclat d'un cytise aux fleurs couleur de miel, suave comme le miel, dont les rameaux frémissants paraissaient à peine capables de porter le poids d'une beauté aussi flamboyante que la leur. Cependant que de temps à autre, les ombres fantastiques projetées par les oiseaux en vol s'inscrivaient un instant sur les longs rideaux de tussor tendus sur la fenêtre immense et créaient passagèrement une sorte d'effet japonais qui lui rappelait le visage blafard comme le jade de ces peintres de Tokyo qui, par l'intermédiaire d'un art nécessairement immobile, tente de traduire le mouvement et la vitesse. Le murmure obstiné des abeilles, cheminant lourdement parmi les hautes herbes qu'on n'avait pas encore tondues, ou faisant des cercles monotones au-dessus des aigrettes dorées et poudreuses du chèvrefeuille qui poussait en tous sens, semblait rendre le silence encore plus oppressant. Le grondement indistinct de Londres était comme le bourdon d'un orgue dans le lointain. Au centre de la pièce, fixé sur un chevalet droit, se dressait le portrait en pied d'un jeune homme d'une beauté extraordinaire, et face à lui, à quelque distance, était assis l'artiste lui-même, Basil Hallward, dont la disparition subite, il y a quelques années, suscita dans l'opinion un tel émoi et fit naître de si étranges conjectures.
Alors je ne sais pas ce que vous allez nous dire de ce texte Pascal Acquin, mais ce qui frappe peut-être au premier abord, c'est la présence des sens, des senteurs, des sons, des ombres. Donc on est autant dans la vue que dans l'ouïe, que dans l'odorat.
Voilà, je crois que c'est un aspect effectivement très très important de ce texte, avec ses effets multiples de synesthésie, de rapprochement de tous les sens, lien également entre l'art et la réalité, puisque cette réalité-là qui est décrite n'est décrite que par le truchement, que par l'intermédiaire de l'art. C'est-à-dire que les rideaux sont tendus avec ces vols d'oiseaux qui sont qui créent des effets japonais. Donc pour mieux voir un réel qui pourrait être assez ordinaire comme celui d'un simple rideau, eh bien on passe obligatoirement par le truchement de l'art, puisque c'est l'art qui pour Wilde permet de voir le monde.
Donc l'art c'est la vie, c'est directement annoncer le thème de la fiction, fiction art artificielle disons, versus ce qu'on appellerait la vie telle qu'elle est. Et qui est souvent décevante.
Oui, pour autant, la vie, enfin, à proprement parler, ne intéressait aussi évidemment Wilde, mais ce qui me semble plus important, c'est l'idée que la perception du réel passe nécessairement par, en quelque sorte, une culture artistique. Et comme il le disait, les brouillards n'existaient pas avant que Tana, les Upins. Autrement dit, pour voir de la brume, il faut d'abord avoir vu un tableau. Et ça ne veut pas dire que la brume n'existait pas, ça veut dire simplement que pour la percevoir dans toute sa dans tout le sens finalement qu'elle prend, il faut d'abord passer par l'intermédiaire du peintre, du regard du peintre, hein, qui donne à voir autrement et qui permet à soi-même en tant que sujet de voir autrement et mieux.
Est-ce que la présence des objets également vous interroge, le divan fait de selle persane, les longs rideaux de tussor, des objets qui sont très caractérisés, cette attention aux objets, est-ce qu'elle signifie quelque chose selon vous ?
Eh bien, il est évident qu'on est dans une forme d'orientalisme qui était tout à fait à la mode en cette période, enfin à la fin du 19e siècle. Donc le mot divan lui-même, bon, et puis les selles, les motifs persans, les tissus motifs persans, le tussor, enfin qui est une soie d'une qualité particulière. Bon, on a l'effet japonais, on a l'évocation des peintres de Tokyo. Tout ça nous ramène à une espèce d'Orient qui est totalement esthétisé et qui vaut surtout en tant que scène esthétique. Thank you.
Deuxième extrait, Pascal Akien, vous avez choisi le De Profundis. Pour quelle raison ?
J'ai choisi le De Profundis, du moins le début de De Profundis, qui est la lettre que Wilde a adressée à son jeune amant, Alfred Douglas, donc il appelle Bosie, comme on l'appelait dans sa famille. Et j'ai choisi ce texte parce que c'est un grand texte autobiographique dans lequel Wilde fait le point sur sa vie, sur son existence. C'est un texte qu'il a rédigé alors qu'il était en prison, qui ensuite a été publié d'abord sous une forme censurée parce qu'on craignait les procès de la famille du jeune homme. Maintenant, bien sûr, on dispose de la version définitive. Et c'est un texte qui est une prise de conscience, d'abord un bilan de sa propre vie, une prise de conscience ce qu'a été cette relation avec ce jeune homme, et également, ce qui est peut-être encore plus intéressant, un texte dans lequel finalement, en dépit de tout ce qu'il a subi, il s'affirme quand même comme écrivain. Donc écrire cela, c'est dire malgré tout, j'écris, je suis un écrivain et rien ne m'a anéanti.
On vous écoute.
Prison de Sa Majesté, Reading. Cher Bosie, après une longue et vaine attente, j'ai décidé que ce serait moi qui t'écrirais, dans ton intérêt comme dans le mien, car je ne voudrais pas me dire que j'ai passé deux longues années en prison sans avoir jamais reçu de toi une seule ligne, ni même quelques nouvelles ou quelques messages, si ce n'est pour en éprouver de la peine. Notre amitié funeste et si lamentable a abouti pour moi au désastre et à l'indignité publique. Et pourtant, je pense souvent à notre ancienne affection, et l'idée que l'aversion, l'amertume et le mépris puissent jamais prendre en mon cœur la place qui tint jadis l'amour, m'attriste profondément. Et toi-même, je le crois, sentiras au fond de ton cœur que m'écrire, dans ma solitude de prisonnier, vaut mieux que publier mes lettres sans ma permission, ou me dédier des poèmes sans que je te l'aie demandé. Quand bien même le monde ne saurait rien des paroles de douleur ou de passion, de remords ou d'indifférence qu'il te plairait de décider de m'adresser en guise de réponse ou d'appel. Je ne doute pas un instant que dans cette lettre où il me faut te parler de ta vie et de la mienne, du passé et de l'avenir, de douceur devenue amertume et d'amertume qui pourrait devenir joie, il y ait bien des choses qui blesseront au vif ta vanité. Et si ce doit être le cas, relis cette lettre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle tue ta vanité. Si tu y trouves quelque chose dont tu croiras être accusé injustement, rappelle-toi qu'on doit se réjouir qu'il existe une faute dont on puisse être injustement accusé. S'il s'y trouvait un seul passage qui fit jaillir des larmes de tes yeux, pleure, comme nous pleurons en prison, en ces lieux où le jour, tout autant que la nuit, est fait pour pleurer. C'est la seule chose qui puisse te sauver.
Un mot de commentaire très rapide, et puis après on passera tout de suite au dernier texte, car l'heure tourne.
Un mot très rapide, comme vous avez pu constater, il est beaucoup question d'écriture, il est beaucoup question de lettres. D'emblée, on ne commence pas par une avalanche de reproches, mais on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire écrire. Écrire des lettres, il évoque des lettres de lui qui auraient été publiées, que Bosie voulait publier. Mais tout cela, finalement, tourne sans cesse autour de la question de l'écriture. Donc c'est une manière là aussi bien sûr de s'affirmer comme écrivain. La seconde chose que je pourrais dire, c'est que on voit bien qu'il y a d'emblée une certaine dimension religieuse, la vanité, donc vanité des vanités, tout cela apparaît, la passion, le mot passion, comme l'on pourrait prendre aussi de diverses manières, et tout cela annonce ce qui apparaîtra un peu plus tard dans la lettre, cette identification de Wilde au Christ, non pas une identification, disons, délirante, il ne se considérait pas lui, bien sûr, comme étant d'essence divine, mais simplement le Christ comme celui qui est allé jusqu'au bout d'un certain destin et entouré en outre pour lui d'une certaine dimension esthétique. Donc le Christ de Wilde auquel s'identifie Wilde plus exactement, c'est le Christ de Renan dans La Vie de Jésus, c'est-à-dire un Christ laïque, mais quelqu'un qui serait allé jusqu'au bout d'une expérience pour les hommes. Et cela apparaît à mon avis dès les premières lignes.
Allez, dernier extrait, rapidement, toujours la prison, c'est la balade de la geôle de Reading.
Je vais vous lire le début de ce poème qui est la dernière œuvre de Wilde et qui est un poème absolument magnifique et à vrai dire le seul très grand poème qu'il ait écrit. Je laisse de côté la Sphinge ou les poèmes en prose, mais les poèmes de jeunesse sont très pâles à côté de ce texte. Il n'avait plus cette tunique écarlate car le sang et le vin sont rouges et du sang et du vin tachaient ses mains. Quand près de la morte, on le prit, la pauvre femme morte qu'il aimait et avait tuée dans son lit. Il marchait au milieu des prévenus dans son habit d'un gris râpé, coiffé d'une casquette de cricket. Son pas semblait léger et gai, mais jamais je n'ai vu homme scruter si pensivement la clarté. Jamais je n'ai vu un homme scruter avec des yeux aussi pensifs ce petit pan de tente bleue là-haut que les prisonniers nomment « ciel ». Et chaque nuage errant qui glissait avec sa voilure d'argent. J'allais avec d'autres âmes en peine et marchais dans un autre cercle, me demandant si l'homme avait commis une faute grave ou vénielle, quand une voix derrière chuchota « Ce gars-là, il va être pendu !» D'où Christ ! Les murs même de la prison soudain semblèrent chanceler et le ciel sur ma tête se changea en un brûlant casque d'acier. Et bien qu'aussi je fusse une âme en peine, ma peine, je ne sentais plus. Je ne savais que la pensée furtive qui pressait son pas et pourquoi il scrutait l'éblouissante clarté avec des yeux aussi pensifs. L'homme avait tué l'être qu'il aimait et pour cela devait mourir. Pourtant, chaque homme tue l'être qu'il aime, que tous entendent ses paroles. Certains le font avec un regard dur, d'autres avec un mot flatteur. Le lâche, lui, tue avec un baiser. Et le brave avec une épée. Certains tuent leur amour quand ils sont jeunes, d'autres quand ils sont déjà vieux. L'un étrangle avec les mains du désir et l'autre avec les mains de l'or. Le plus charitable use d'un couteau, car le mort refroidit vite. Tel aime trop peu, trop longtemps, tel autre. Certains vendent, d'autres achètent. L'un commet son crime en versant des larmes et l'autre sans même un soupir. Car si chaque homme tue l'être qu'il aime, chaque homme ne doit en mourir.